Jean Giraudoux, Le Cyclope. Le 21e jour, Ulysse et ses compagnons s'aperçurent que les vivres finissaient par manquer. Quelques matelots africains s'étaient même attaqués au fourrage, ce qui enlevait jusqu'à la ressource suprême de ne plus pouvoir tirer à la courte paille. Par bonheur, le plus favorable des vents poussa le navire vers une île où ils se repurent de coquillages qu'ils arrosèrent d'un succulent eau de source. Ils fumaient du varech à la seule ombre qu'ils avaient pu trouver, celle d'une caverne, quand un fracas effroyable les fit tressaillir. Oh, voilà ma veine, dit l'astucieux Ulysse. Pour une fois, depuis 10 ans que je fume ma pipe en repos, il nous faut tomber sur une île volcanique. Le médecin du vaisseau, Hydrophonte, le rassura. Astucieux Ulysse, dit-il, ce n'est pas un volcan qui tousse, mais le cyclope. Il serait aussi faux de conclure que cette île est inhabitée, parce que elle est sans végétation, que de croire désert le cerveau du vieux Nestor que nulle chevelure ne recouvre. Elle est la terre d'une race de géants, appelés cyclopes, parce qu'ils ont 40 pieds de haut, un œil unique au milieu du front, et se nourrissent de laitage. Quand l'occasion ne leur est point donnée comme aujourd'hui, d'avoir un carteron de grec dont la chair, comme chacun sait, est réputée. Il dit, et un troupeau de brebis gigantesques se précipita dans la caverne, poussant devant lui un troupeau d'ombres plus terrible encore. Le géant apparut dans l'embrasure de la porte des rochers. Il n'était plus possible de fuir. L'astucieux Ulysse s'avança et prononça des paroles zélées. « Oh, Cyclope, dit-il, ce n'est pas 2, ce n'est pas 4, ce n'est pas 6 yeux qui suffiraient pour admirer celui que tu plaças avec tant d'à-propos au milieu d'un front qui paraîtrait peut-être dégarni, puisque les cheveux battent une retraite savante vers le derrière de ta tête. Ton œil est le bouclier contre lequel se brisent les rayons flèches d'Apollon. Ton sourcil, pendant ton sommeil, est l'arc d'ébène que bande Astarté, déesse de la nuit. Les sources de cristal sont les monocles que tu laisses négligemment tomber. Tu es un sujet d'envie pour Tersite, qui même depuis qu'il est borgne continue à loucher pour Junon, dont les yeux sont bigles, et pour l'amour lui-même, qui, dans le désir de te ressembler, s'apposa sur l'œil droit un bandeau qui glissa aussi le maladroit sur l'œil gauche. Le cyclope, flatté, s'inclina, et les matelots, agitant leurs bras comme une trirème agite ses rames, s'écrièrent « Hurrah, hurrah, hurrah pour le cyclope !» L'amour essaie de lui ressembler. Mais autant vouloir manger le potage de Corinthe, avec de petits bâtons. L'amour pour se cacher, fût-ce dans les bosquets de laurier rose. Le cyclope cligna de son œil et regarda et parla par borborygme. Étranger, tu as la langue bien pendue. S'il est permis avec toi d'avoir qu'un œil, il ne l'est pas de n'avoir qu'une oreille. Alors les matelots claquèrent des mains et gesticulèrent, se regardant comme des figurants dans une scène d'opéra, quand le ténor affirme que sa fiancée est plus blanche que l'hermine. Mais ce n'est pas du miel qu'il y a sur les lèvres du cyclope, comme sur celle du vieux Nestor, s'écrièrent-ils alors. Ou alors, c'est du miel où l'abeille a oublié son aiguillon. Il a de la répartie, comme un diable. Étranger, dit le cyclope, j'aime la propos de votre discours. Oh, je m'en voudrais de vous le cacher, qu'un jour viendra où vous me servirez de pâture. Mais que cela ne nous empêche pas d'être amis. La cuisinière alerte tuera les poules, mais elle est la bienvenue dans la basse-cour. Et la gentellée, à l'envi, piaille de joie à sa vue. Alors l'astucieux Ulysse et ses compagnons crièrent « Mais il a raison, piaillons à l'envi !» L'enfant de Troyen qui affirmera que la cuisinière inerte alerte n'est pas la meilleure amie de poule, lui enfonceront dans sa bouche menteuse, à coups de maillet, une énorme betterave de Smyrne. Le cyclope roula quelques rochers devant lui et s'assit. « Et toi, dit-il, toi qui as la langue agile comme un python pendu par la queue, quel est ton nom ?»« Je m'appelle Personne, répondit Ulysse. Le cyclope s'étendit sur le foin, but quelques tonneaux de vin, où une fonte avait jeté par précaution un puissant narcotique. « Oh, c'est un nom américain, dit-il. Me chaud. Dis-moi, mon vieux personne, dis-le-moi, entre trois yeux, as-tu jamais aimé ?»« Oh, c'est selon, répondit l'astucieuse Ulysse. « Non, pas aimer, reprit le cyclope. J'entends être brûlé jusqu'aux moelles, écrire son nom sur la mer avec des quartiers de rochers, de montagnes, habilement disposés, et selon les circonstances, être partagé par l'envie de broyer l'objet. Aimer, soit sur son cœur, soit sur un bon coup de massue. Voir, dit Ulysse, il y a dans l'amour à boire et à manger. Mais l'objet aimé, continua le cyclope, est dans l'occurrence la plus charmante petite nymphe qui est foulé le sol. Et notre ami la terre, de ses petits pieds polissons, mais je ne puis indiquer mon désir par des œillades. Et quand je fais des vers, il n'y a que le premier qui rime.
Pardon, demanda Ulysse. Est-ce pour le bon motif? Mais pour un meilleur encore, dit le cyclope. Je suis bigame et j'épouse, si c'est une condition, toute la famille. La mère est, ma foi, croustillante, souffla Ulysse. Non, non, reprit le cyclope, c'est la sœur qui est croustillante. Mais je l'épouse aussi. Explique cela dans les vers que tu vas me faire. Alors les matelots n'y tinrent plus et crièrent: Hourra, hourra pour le cyclope! Il la connaît dans les angles. Son œil est l'astre autour duquel gravitent toutes les prunelles des nymphes. Que la sœur croustillante prenne bien garde à elle quand elle ira baigner dans la mer ses petits pieds polis, semblables à des osselets. Mais le cyclope, étendu sur sa couche de foin, dormait, ronflait déjà. Les actifs matelots s'occupèrent à faire rougir la pointe de fer d'un énorme épieu. Les brebis, prévoyant un malheur, émettaient plaintivement la seconde lettre de l'alphabet. Attention, dit Ulysse, ayons l'œil et le bon. Six vigoureux gaillards soulevèrent la poutre et, au commandement de trois, l'enfoncèrent dans l'œil gigantesque, fermé comme une trappe après les câbles du sommeil. L'œil crissa, bouillit, rougit, déborda comme une poêle dans laquelle on fait sauter une anguille de haut vin. Le cyclope se mit sur son séant, sauta sur ses pieds, puis en l'air, et se mit hurlant à courir en rond. Les moutons, effrayés, galopaient devant lui. Le salaud s'est réveillé, se dit l'astucieuse Ulysse. Le blessé poussait des cris auprès desquels les éclats de voix de l'acteur national endossit de l'interprète de Sophocle ne sont que des vagissements. Les Grecs, eux, affectaient négligemment de se tenir quoi? Cause toujours, pensait Ulysse, tu m'intéresses. Le cyclope causa et tourna en rond plusieurs heures, 6 heures et 6 autres heures encore. Puis, comme les brebis fatiguées s'étaient laissées choir et haletaient, il eut peur de les piétiner et, accroupi au centre de la grotte, il se contenta de rugir, lançant parfois ses mains au hasard, à droite et à gauche. Mais il ne pouvait attraper que des crabes que les compagnons d'Ulysse avaient mis recherchés sur le rivage et qu'il s'amusait à lui tendre au bout d'une baguette. Bientôt, les autres cyclopes, attirés par les beuglements, s'assemblèrent devant la caverne. Hé, cyclope, demanda-t-il, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'as-tu à meuter ainsi les personnes? Quel est le malotru qui t'a fait du mal? Qui voulez-vous que ce soit? Hurla-t-il. C'est personne! Malgré sa douleur, il affectait de prononcer le mot avec l'accent américain. Les voisins secouaient la tête en riant. Ce cyclope, faisait-il en montrant du doigt la partie de leur front où de simples mortels n'ont pas d'œil. Nous avons toujours dit qu'il avait quelque chose là. Et ils regagnaient leur clos en lutinant leur compagne. Pas eux, pensait Ulysse. Le colabaillard menace de traîner en longueur. J'avoue que je préférerais un partenaire plus mutin, ne fût-ce par exemple que Nausicaa. Voilà déjà le soir. Notre hôte prend trop à la lettre les devoirs de l'hospitalité. Il devrait sortir, c'est l'heure du berger. Mais les brebis, dans le matin, se réveillaient bel air. Et le cyclope fut ému de pitié. Il se traîna à la porte de la caverne, écarta quelques rochers avec mille précautions et les laissa passer. Sous le ventre de chacun, à la laine touffue, s'était accroché un matelot, et tous glissaient vers la lumière ainsi, vers la lumière du jour. Ulysse s'était blotti sous le bélier qui venait à la fin, et son cœur s'arrêta, car le cyclope se consola quelques minutes à caresser son favori. « Cher bélier, disait-il, c'est toi et non un autre qui sera désormais mon œil vénérable. Ramène chaque soir ton troupeau comme un roi qui pousse ses sujets devant lui et que de tes cornes tu, semblable à celle de Zeus, le loup, le chacal et le lynx, que Pluton emporte, il dit. La trirème appareillait déjà, et les rangées de rames se levaient lentement et alternativement comme les pattes d'une langouste qui s'éveille. Le cyclope, prévenu par le crissement des voiles et du gouvernail, se précipita sur le rivage et lança dans la direction du bruit des quartiers de montagne. Mais Zéphyr avait déjà emporté l'embarcation vers le nord. L'audacieux Ulysse mit ses mains en cornet devant sa bouche, et comme on était déjà au large, il fit venir 10 hommes qui disposèrent devant lui leurs mains en cornet porte-voix. « Adieu, cyclope, cria-t-il, et sans rancune. Apprends qu'il est prudent d'avoir un second œil, ne fût-ce que pour pleurer le premier. Et crains les Grecs, même lorsqu'ils n'apportent pas de cadeaux, même pour ceux qui voyaient, le navire avait disparu. Alors le cyclope regagna sa demeure d'un pas trébuchant, À la porte de la caverne, les brebis qu'il n'avait pas pu traire la veille s'étaient assemblées et traînaient sur les galets leurs pis douloureux. Il les appela une par leur nom et s'acquitta de son office de berger. De grosses larmes salées tombaient dans le lait crémeux qui caillait aussitôt, et ce fut ce jour-là le plus délicieux de ces fromages, fit elle manière, pseudonyme de Jean Giraudoux.